Vous écoutez Dans la tête d'un leader,
le podcast de Marseille qui croise le management des navigateurs et des entrepreneurs.
En 2008, Christopher a fondé Marseille, devenu aujourd'hui une référence du nautisme et du sport business.
Nous accompagnons marins et dirigeants ambitieux dans le développement de leurs projets.
Nous mettons notre expérience voile au cœur de la performance des entreprises.
Dans ce podcast, avec Amandine, on vous partage notre passion pour le leadership et on vous emmène
dans la tête d'un leader. Christopher y reçoit ses confrères et amis, les plus grands marins de la planète.
Amandine, quant à elle, accueille des dirigeants tout aussi inspirants.
Un épisode voile,
suivi d'un épisode business,
mais toujours les mêmes thématiques abordées. Motivation, concentration, gestion de crise et prise de décision.
Afin de décrypter ensemble, avec nos invités, les ressorts du management en mer comme à terre.
Et d'entrer dans la tête d'un leader.
Olivier, merci beaucoup d'accepter d'être sur notre podcast Dans la tête d'un leader. Je te présente rapidement. Un petit surnom, Gali, hein, pour les intimes, puisque nous, on se connaît depuis notre adolescence. On était en équipe de France de voile de 420 quand on était tout jeune. Et si on remonte un petit peu plus loin, toi, tu es né à Avignon. Tu as presque toujours vécu à Sainte-Maxime, que tu appelles... la capitale, et tu as suivi une filière dériveur assez classique avec de l'optimiste, du 420 et ensuite du 470. Et en parallèle de ça, tu as poursuivi des études plutôt brillantes en pharmacie. Mais le déclic dans ton parcours voile, c'est l'association avec ton ami d'enfance Nicolas Charbonnier en 470 pour préparer les Jeux Olympiques de Pékin. Votre association... fait très vite des étincelles. Nicolas, qui est un des plus grands navigateurs de sa génération, qui est d'ailleurs aujourd'hui sur la Coupe de l'América avec l'équipe suisse, vient te chercher en tant qu'équipier pour ton agilité, ton intelligence, mais aussi, surtout, je pense, pour l'amitié qui vous liait depuis des années. Et votre duo fait des merveilles et vous décrochez une superbe médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin. En parallèle de ça, tu mènes, comme je le disais, des études brillantes. Il me semble que tu sors même major de ta promotion de pharma et que tu as des félicitations du jury lors de la présentation de ta thèse. Et puis, derrière ça, tu arrêtes ta carrière de navigateur professionnel dans la série olympique 470 pour te consacrer à ton vrai travail, donc ton travail de pharmacien, et tu reprends le laboratoire d'analyse médicale familiale avant d'intégrer il y a 2-3 ans le groupe Serb Alliance, dont tu es aujourd'hui le directeur de la région sud, si je ne dis pas de bêtises.
C'est exactement ça, Chris. Donc, merci à toi et à Amandine de m'inviter. Je suis très flatté de compter parmi ces vos invités. Et bonjour également à tous les auditeurs qui sont de plus en plus nombreux.
Eh ben, on va rentrer dans le vif du sujet. Olivier, tu connais très bien le protocole sur notre podcast, hein, des questions toujours les mêmes sur nos sujets de prédilection et une entrée en matière avec notre question un peu signature. Quelle est la devise, quelle est ta devise ou ton mantra, que ce soit sur la partie perso ou professionnelle, et celui que tu essayes d'appliquer à tous les pans de ta vie?
Alors effectivement, cette question est importante. Alors c'est difficile de choisir parce que effectivement une seule devise, c'est parfois un peu réducteur, mais en tout cas celle que j'aime bien, qui est bien sûr pas de moi, c'est Bonaparte qui l'a dit, et l'art de la réussite, c'est d'être tantôt très audacieux, tantôt très prudent. Et j'aime bien cette phrase parce que, et je pense que c'est aussi le sujet du podcast, voilà, c'est où placer le curseur dans la gestion du risque et dans la prise de décision. Et en tout cas, moi, j'ai essayé d'appliquer tout au long de ma carrière sportive, et je l'applique tous les jours dans ma carrière professionnelle dans le monde de l'entreprise, mais aussi dans ma vie personnelle.
Intrinsèquement, tu te définirais comme quelqu'un de plutôt audacieux ou quelqu'un de plutôt prudent ?
Alors, je suis quand même quelqu'un de prudent. Je sais ce que tu penses, Chris, mais oui, je suis quelqu'un de prudent. J'aime bien maîtriser mon sujet. Je m'entraîne beaucoup, je travaille beaucoup. Je me considère pas comme quelqu'un de doué, contrairement à beaucoup de personnes que je côtoie. Mais par contre, je le sais. Et pour arriver au même niveau, voire au-dessus du niveau de certaines personnes, je suis obligé de travailler 2 à 3 fois plus. Donc voilà. Mais j'aime bien maîtriser le sujet, j'aime bien connaître, ce qui fait que je suis de nature quand même plutôt prudent. Par contre, et je pense que c'est très important, il faut savoir prendre des risques. Je dis souvent que le plus grand des risques, c'est de ne pas en prendre. Donc voilà, je sais jusqu'à présent, j'ai plutôt bien maîtrisé cette partie-là. Quand il faut prendre des risques, j'y vais. Voilà.
Ouais, génial, c'est intéressant. Je trouve que tu te définisses comme quelqu'un de pas très talentueux. Je suis pas forcément d'accord avec l'analyse, mais par contre tu mets surtout en avant ta capacité de travail et c'est certainement ça qui a fait ta réussite, ta double réussite, parce que ce double parcours, hein, que je citais en introduction, à la fois dans la préparation olympique avec une réussite, enfin avec une médaille au bout, et en même temps mener des études de très haut niveau. C'est quand même quelque chose d'assez remarquable, et donc j'entends que tu l'attribues avant tout à ton travail.
Ah ben clairement, c'est sûr que j'ai travaillé beaucoup, énormément, que ce soit pour la préparation du concours de l'internat que pour la préparation olympique, et d'ailleurs les deux sont liés parce que, comme tu l'as dit, j'ai fait les deux en même temps, et c'est grâce au bon résultat du concours de l'internat, je suis arrivé effectivement premier du concours national. Ça m'a permis de prouver à mon doyen et au patron de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et de l'université que j'étais quelqu'un de sérieux. Souvent, quand on fait de la voile, les gens pensent planche à voile, soleil, surf. Et on a du mal quand on arrive tout bronzé dans un service à l'hôpital parce qu'on était en entraînement à Sydney ou à Miami, on a du mal à passer pour quelqu'un de sérieux. Voilà, le fait d'avoir passé le concours de l'internat comme tout le monde et d'être arrivé bien classé, ça m'a permis d'avoir un gage de sérieux vis-à-vis des instances représentatives, et ça a été pour moi entre guillemets une facilité énorme pour que après on puisse me laisser partir pour m'entraîner, pour faire cette préparation olympique.
Ok, génial. On enchaîne avec le un peu mon sujet de prédilection. T'en as un petit peu parlé en évoquant le concept de la prise de risque, mais moi j'aimerais parler avec toi de prise de décision. Alors on parlera peut-être un peu de ta carrière professionnelle et de ta vie professionnelle aujourd'hui ensuite, mais là j'aimerais me concentrer sur la prise de décision finalement sur un 470. Alors pour nos auditeurs, c'est peut-être pas très clair, mais le 470, c'est un dériveur qui, comme son nom l'indique, fait 4,70 m, sur lequel on navigue en double. Alors jusqu'à la dernière Olympiade, on y naviguait en double, soit fille, soit garçon. Aujourd'hui, c'est un double mix. D'ailleurs, si vous écoutez l'épisode précédent avec Hippolyte et Aloïse, voilà, c'est hyper intéressant de comprendre leur fonctionnement. Et donc toi, tu es navigué en 4,70 pour préparer ces Jeux Olympiques de Pékin avec Nicolas Charbonnier. Et vous deviez en permanence prendre des décisions, que ce soit sur la gestion de votre projet sportif pour être performant dans la durée et obtenir cette médaille. Donc ça, c'est des prises de décision sur la gestion projet. Et en même temps, quand vous êtes sur l'eau, là, on est sur des choses qui sont des facteurs temps qui sont beaucoup plus courts, des manches qui durent 40-50 minutes et des décisions qui parfois doivent se prendre en quelques fractions de secondes. Et donc, j'aimerais que tu nous dises un petit peu si tu as une méthode, des outils que tu utilisais à cette époque-là et que tu pourrais nous partager au micro de notre podcast.
Oui, bien sûr. Déjà, effectivement, les manches, comme tu l'as dit, sont courtes, voire même elles sont encore plus courtes, hein, parce que les medal race, on a fait des medal race qui duraient 15-20 minutes. On était la première Olympiade avec les medal race, et c'est vrai que...
Alors, la medal race, La Medal Race, pour ceux qui nous écoutent, hein, c'est une course qui vient clôturer le championnat, qui compte double et qui, comme son nom l'indique, distribue un peu les médailles. Et donc, une course avec simplement les 10 premiers du classement à l'issue de la semaine de course et qui va donc souvent être décisive pour la course aux médailles.
Voilà. Donc, en ce qui concerne la prise de décision en 4-7, je pense qu'avant, c'est hyper important de voir un peu la préparation. Comme tu l'as dit, moi j'ai un parcours plus que classique, hein, donc voilà, j'ai fait beaucoup d'optimistes 420. Je suis passé après l'optimiste, j'étais barreur de 420 quand on s'est connu, Christopher. Ensuite je suis passé équipier, j'ai eu plusieurs barreurs avec des caractères plus ou moins forts, et il faut savoir que une de mes qualité, c'est de pouvoir m'adapter, et c'est vrai que dans un groupe on me choisit souvent pour quelqu'un qui peut s'adapter un peu à tous les différents caractères, et ça me sert tous les jours, et dans la prise de décision ça m'a servi effectivement. Si on prend la préparation olympique de 2008, je naviguais avec Nicolas Charbonnier, qui est quelqu'un de très doué, mais qui est quelqu'un qui a un caractère fort et qu'il faut réussir à canaliser. On avait chacun nos points forts et nos points faibles, et on a mis du temps, même si on se connaissait depuis de nombreuses années, parce que avant d'être équipiers ensemble, on est amis, et cette amitié est un avantage, mais dans certaines situations est peut-être très compliqué à gérer. Et dans la prise de décision, on a mis du temps, parce que on n'a pas beaucoup navigué ensemble, hein. On a navigué ensemble que 4 ans, parfois pour décider en quelques microsecondes, il faut se connaître parfaitement, et on a établi un schéma qui est très scolaire, hein. Ça c'est un peu ma patte, c'est-à-dire qu'en fonction des conditions de vent, il y avait une personne qui avait une vision globale, qui était plus dans la prise de décision stratégique. Et il y avait une personne qui était beaucoup plus concentrée sur les performances du bateau et qui est voilà, qui se concentre sur l'aspect performance du bateau, quelqu'un de un peu plus opérationnel si tu veux, et on switchait de mode au-delà de 12-14 nœuds, hein. Dans le petit temps, on va dire que c'était moi qui étais concentré sur la performance du bateau, sur l'assiette, réglage des voiles. Nicolas, lui, était plus vision globale, stratégie, et dès qu'il y avait trapèze, moi j'étais beaucoup plus haut. Et Nicolas était plus un peu sous l'eau à l'intérieur. Il faisait plus l'aspect performance. Voilà. Et ça, c'était dans notre fonctionnement. Ensuite, je crois qu'il n'y a pas de secret. C'est vraiment l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. Et depuis qu'on a l'âge de 7-10 ans, on fait des régates. Elles étaient au départ très simples. C'était des régates départementales. Puis, voilà. Après régional, national, international, et le fait d'avoir vu le maximum de situations nous met dans des schémas qu'on peut répéter et qu'on répète, des situations qui se répètent, et grâce à ces situations qu'on connaît, on arrive à quasiment sans discuter, sans réfléchir, à avoir ces automatismes qui nous permettent de décider dans les meilleures conditions et prendre la bonne décision dans la majorité des cas.
Et ouais, il y a plein de choses dans ce que tu dis qui sont super intéressantes. Si je rebondis sur ta dernière phrase, hein, cette capacité, parce que vous avez une énorme expertise, une grande expérience, de finalement reconnaître des situations et d'avoir une décision qui vient automatiquement sans même que vous ayez besoin de vous concerter. Ça c'est classique effectivement des experts qui vont du coup passer directement ce qu'on appelle en système 1 sur la prise de décision. décision, alors que quelqu'un qui serait moins expert aurait besoin d'un temps de réflexion pour analyser la situation et prendre une décision. Donc vous reconnaissez une situation, ou en tout cas très proche de ce que vous avez déjà connu, et vous avez une réaction automatique à cette situation. Ce qui est assez intéressant, et c'est la deuxième question que je voulais te poser, tu t'en as un tout petit peu parlé, mais c'est finalement, est-ce que t'as dit ça nous a pris du temps de nous mettre en place. Est-ce que ce temps-là, c'est pas justement le temps qu'il faut pour déjà décider que bah il y a des conditions dans lesquelles c'est moi qui vais décider, ou dans lesquelles d'autres conditions dans lesquelles c'est toi qui vas décider, évidemment, mais aussi de construire un référentiel, un vocabulaire commun, des automatismes qui vont vous permettre justement d'aboutir à ces décisions très rapides, presque instinctives, dans des situations entre guillemets reconnues classiques.
Ah ben oui, bien sûr. Et puis comme je te l'ai dit, on a mis du temps au début à trouver notre fonctionnement, et on est parti quand on a vu que on partait un peu dans tous les sens. On est revenu à la base tant au niveau choix du matériel que au niveau communication. Bien sûr, on s'est fait aider par nos entraîneurs, les staffs de l'équipe de France et de la Fédé. Pour revenir un peu aux bases de la communication, quels sont, encore une fois j'insiste, nos points forts et surtout nos points faibles, essayer de mettre les points forts de Nicolas et les miens en exergue dans chaque pan de la communication, et essayer d'avoir un vocabulaire le plus simple possible, parce qu'il faut savoir que dans notre sport, on fait un sport où il y a beaucoup de bruit. On a du mal à se comprendre, même si en 4-7, on est à quelques centimètres l'un de l'autre, mais on est régulièrement sous l'eau. Donc j'avais tendance à faire des phrases au tout début. Donc des choses qui paraissent complètement idiots maintenant. Mais on avait des mots, et il y avait des mots qu'on choisissait nos mots, qu'il y ait une prononciation vraiment différente selon le mot. Ça paraît bête, mais c'est important, parce que dans les situations de stress et de crise, il faut que cette prise de décision soit rapide, et pour qu'on ait une bonne prise de décision, la communication est indispensable.
Mais ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, et c'est quelque chose sur lequel tu le sais d'ailleurs, on travaille pas mal avec les comités de direction qu'on accompagne, puisque je trouve que justement faire prendre conscience, et c'est ce que vous avez fait, qu'il faut perdre du temps sur le vocabulaire commun, sur la construction des référentiels qu'est-ce que veut dire quoi, quel mot on met pour définir une situation, c'est un gage de performance énorme.
Ah ben oui, ça c'est sûr. C'est sûr que il vaut mieux, plutôt que de s'entraîner des heures et des heures à un moment donné sur des manœuvres, des départs, il vaut mieux perdre peut-être quelques jours de nage, se mettre dans une pièce et avec un papier et un crayon et travailler sur ces mots. Et encore une fois, le parallèle avec le monde de l'entreprise est criant. Moi, je veux dire, aujourd'hui, dans l'entreprise, c'est tout le travail que j'ai fait en communication dans le sport de haut niveau me sert en permanence.
Et sur la partie plus de, je t'ai entendu dire, on a eu du mal à se mettre en place, et on est, grâce au staff de l'équipe de France et aux gens qui nous encadraient, on est revenu sur des choses simples, sur des fondamentaux. Et j'ai l'impression que c'est un peu une caractéristique dans le sport de très haut niveau, d'avoir du mal finalement à revenir à des choses très simples, et que finalement l'exécution de choses simples souvent suffit, entre guillemets, quand on arrive à ce niveau-là, à performer. Enfin, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais...
Oui, et puis on parlera tout à l'heure de l'état de grâce, mais je pense que tout sportif de haut niveau a eu à un moment donné un état de grâce. Nous, avec Nicolas, on a eu une période, un mois, où on était sur l'eau, n'importe quelle régate, on gagnait tout, on pouvait partir dernier avec 3 minutes de retard. On arrivait à repasser en tête en quelques bords. C'était en 2007 à Los Angeles. Et cet état de grâce pour nous a été un peu un étonnement parce que quoi qu'on fasse, je veux dire, on allait plus vite, plus haut, on était du bon côté et on a essayé de retrouver cet état de grâce, dans quelles conditions on était, qu'est-ce qu'on a fait, et on l'a jamais retrouvé. Mais je veux dire, tout sportif l'a vécu et je crois que les solutions pour le retrouver n'existent pas, ou en tout cas nous on les a pas trouvées. Mais pour revenir sur quand on se perd, nous, comme je te le disais, la voile, enfin tu le sais, est un sport mécanique. Le 4-7 est connu pour le développement qu'on peut apporter sur certaines parties du bateau, que ce soit les voiles, le mât, les coques, les appendices. Et on était de par notre statut de leader, d'être parmi les leaders mondiaux de la série, on essayait beaucoup de matériel et parfois trop sur des régates, notamment quand il y avait pas mal de vent, on essayait de trouver le matériel adapté et on se perdait, on passait beaucoup de temps d'entraînement à travailler sur le matériel et on oubliait notre préparation physique, on oubliait notre cohésion, on oubliait notre communication. Jusqu'à une régate qui était un championnat d'Europe en 2006 en Hongrie où on foire la régate, on s'est pris la tête et là on a dit non mais attends, on part pas dans le bon sens. Et là on s'est posé, on a dit qu'est-ce qui fonctionne chez nous et surtout qu'est-ce qui fonctionne chez nos concurrents, notamment en termes de voile, parce que on avait une longue histoire, Nicolas avait une longue histoire avec une voilerie qui nous envoyait régulièrement des voiles à tester, et on faisait que ça en fait. Donc en fait, on a arrêté ça, on a pris le foc que la majorité de la flotte avait, on a pris la grande voile qui nous plaisait, et on a travaillé avec ça pendant plusieurs mois. Et le championnat du monde qui arrive après, San Francisco, où là, on fait un super résultat, sans forcer, et surtout, on est reparti sur des bases qui nous ont permis de nous positionner et de repartir dans une nouvelle saison 2007 avec le matériel adapté qui nous convenait et travailler sur les points. Qui nous restait à travailler 2 ans avant les Jeux.
Et justement, après, on passera aux autres questions, mais là aussi, il y a vachement de décisions hyper importantes dans la manière dont tu mènes ce type de projet-là, parce que finalement, c'est une gestion du temps, un rétro-planning qui t'emmène jusqu'à la sélection au JO, puis jusqu'au jeu. C'était quoi votre là t'as donné quelques éléments de réponse, mais est-ce que vous aviez des garde-fous, une méthodologie pour dire notre feuille de route c'est celle-là et on a peut-être qu'on a des mots-clés, on a des temps forts dans notre préparation qui vont faire que on est prêt le jour J, on s'est pas éparpillé, enfin.
Alors c'est hyper important, je pense que comme dans tout projet il faut un objectif. Alors, il faut l'objectif ultime qui, pour un athlète olympique, c'est les Jeux Olympiques et une médaille aux Jeux Olympiques, parce que l'objectif, c'était bien d'aller aux Jeux, mais c'était d'avoir une médaille. On ne voulait pas aller aux Jeux, on s'est toujours dit juste pour aller dans le stade, faire un tour de stade et dire « j'ai fait les Jeux ». Donc, l'objectif, bien sûr, cet objectif est gradué par des objectifs intermédiaires, hein. Donc chaque saison il y a des objectifs intermédiaires, mais j'ai toujours dit, je l'ai dit à Nico et je le dis à tous les sportifs qui m'interrogent, ça sert à rien d'être prêt avant, et je suis persuadé, et d'ailleurs on le voit, il y a beaucoup de sportifs qui ont été champions du monde, c'est super d'être champion du monde, mais nous pour une série olympique c'était l'objectif, c'était les Jeux. Nous on préférait travailler sur des objectifs intermédiaires et quitte t'as pas à gagner un championnat du monde, mais par contre pour nous faire avancer, progresser pour dans le but de l'objectif ultime. Donc ça c'était pour moi hyper important, et c'est parfois difficile à faire comprendre aux gens qui nous entourent, parce que notamment dans un système de sélection, eh bien, il y a la Fédé qui est là, qui nous observe, il y a des épreuves d'observation avec une sélection qui est parfois mathématique, ce qui n'était pas notre cas, hein, c'était un comité de sélection. Il faut savoir quel est le mode de sélection pour pouvoir fixer ton objectif. Nous, c'était, comme je te l'ai dit, c'était un comité de sélection, donc il n'y avait rien de mathématique. Donc l'objectif mathématique, c'était les Jeux Olympiques, c'était une médaille aux Jeux. Avant, on pouvait expliquer, on pouvait dire, ben voilà, nous, sur ce championnat du monde à Cascais, il y a 25 nœuds tous les jours, c'est pas notre objectif, parce que on prépare les Jeux, et les Jeux, il y aura entre 5 et 15 nœuds, donc on s'est vraiment adapté par rapport à cet objectif-là.
Ouais, ne pas se tromper d'objectif et un peu rien ne sert de courir, il faut arriver à point, quoi.
Ouais, exactement.
Ouais, j'aime bien. C'est hyper intéressant parce que je pense que ça résonnera pas mal avec le podcast qu'on a fait avec Hippolyte et Aloïse, où ils sont vraiment dans cette phase-là à 2 ans des JO, et j'entends des choses que tu dis qui sont dans lesquelles les problématiques dans lesquelles ils sont. Donc je sais pas si vous vous parlez, si des fois tu discutes un peu avec eux, mais je pense que c'est hyper intéressant pour eux d'avoir ton expérience et ton vécu là-dessus, quoi. Pour moi, un équipage de très haut niveau, je pense pas que tu vas me contredire en olympisme, c'est pas un équipage qui gagne des manches avec un bord d'avance, c'est un équipage qui, quand il est 25e à la première bouée, est capable de revenir place par place et finalement de faire une manche de 10e, et donc petit à petit de se placer avec beaucoup de régularité dans les premiers aux abords de la medal race. Et pour ça, il faut être en capacité d'avoir une gestion de crise hyper sereine, à mon avis hyper stable au niveau émotionnel, et de naviguer toujours au même niveau, quel que soit finalement l'environnement et les conditions extérieures ou ce qui a pu se passer. Et donc ça, je voulais savoir si c'est des choses que vous aviez travaillées et comment et quels étaient vos petits tips et vos méthodes là-dessus.
Alors en fait, oui, on travaillait ce type de situation. C'était pas quelque chose de clairement établi, c'était pas un cours magistral sur la gestion de crise, c'était plus des retours d'expérience. Voilà, on sport de haut niveau, on fait beaucoup de entre guillemets de bilan après chaque compétition, on fait beaucoup de débriefing, et c'était plus ces retours d'expérience, ces rétextes là qui nous permettait de discuter de ces situations et d'engranger de l'expérience de façon à ce que dans les crises ultimes, c'est nous on joue pas notre vie hein, en olympisme, voilà, on joue notre vie, on joue notre carrière par exemple sur une médaille race des Jeux. Et moi, je pense à ça. Je veux dire, c'est la médaille race des Jeux, la dernière bouée sous le vent. Il nous restait après un vent arrière. On pouvait être médaille d'argent et on pouvait être cinquième, quoi. Donc, en tant que moi, je savais que c'était mes derniers Jeux Olympiques. Hein, j'avais dit avant, voilà, ta vie change. T'es médaillé olympique, t'es entre guillemets, t'es le roi du monde, t'es quatrième.
T'es un loser.
Pourtant, t'es pas moins bon, mais t'es personne. Donc, t'es dans quelques secondes qui font que bah, tu te rends compte que t'es dans cette situation-là. Ces quelques secondes sont hyper importantes et il faut l'avoir préparé. Mais même si tu l'as préparé, même si tu l'as préparé, pardon, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui se font dans le mental. Et la complexité du sport, du 4-7, hein, comme tout sport, on va dire, d'équipe, voilà, nous, on est deux sur le bateau, c'est-à-dire que on doit gérer nous, en tant qu'être humain, mais on doit gérer aussi son équipier. On n'est que deux à bord. On a tous des caractères un peu différents. Et puis, je l'ai dit, Nicolas avait un caractère fort. Il fallait... c'était à moi de le temporiser, c'était à moi de le gérer. Et ce qui a fait un peu la force de notre équipage, c'est qu'on se connaît. Il faut gérer ces crises. Il faut les gérer du mieux qu'on peut parce que on l'a appris. Mais quand on est le jour de l'objectif ultime, il n'y a rien qui se passe comme on veut. Et il y a tellement de pression qu'il faut qu'on revienne au fond de la bonté. Et cette gestion de crise, on l'a appris au fur et à mesure. Voilà, on a mis des éléments en place, comme la prise de décision, de façon à ce que, ben voilà, on établisse déjà, ben voilà, on est en crise. La communication est hyper importante. Et après, surtout, on se concentre sur ce qu'on sait faire, ce qu'on fait de mieux pour essayer de passer la crise et d'avancer.
Mais du coup, tu veux dire que même dans votre communication à bord, il y avait je donne un, enfin je sais pas si peut-être que tu as des exemples à nous donner, mais voilà, on est dernier d'une manche super importante qui va nous permettre de gagner le championnat ou de passer en medal race ou quoi ou qu'est-ce. Et là, clairement, vous vous dites bon là, on a fait de la merde et on est dans une très mauvaise situation. On switch, on repart sur un mode très simple sur les fondamentaux de communication, de conduite du bateau, et on reconstruit de la performance.
Exactement. Moi, si tu veux, au jeu de Pékin en 2008, il y a eu deux crises. Il y en a eu une grosse qui était 2 à 3 jours après le début, où on fait un super début, on gagne la première manche, voilà, on est premier, deuxième au général, et on fait une journée, je crois la troisième ou la quatrième journée, où on foire les deux manches. Pourtant, il y avait nos conditions, et on foire les deux manches. On reste sur le podium, mais la médaille d'or s'éloigne, et là, je veux dire, la communication est complètement rompue entre Nicolas et moi. Elle est rompue sur l'eau, hein, avant même la fin de la dernière manche, mais elle est rompue à terre aussi. Et on n'est qu'à mi-championnat. On joue nos jeux. Et n'ayant pas du tout les mêmes caractères, Nicolas, que tu connais aussi, se renferme et doit rester enfermé. Et moi, au contraire, moi, il faut que j'aille évacuer. Et on connaissait un peu nos caractères et on avait mis en place en amont, entre guillemets, des personnes ressources dans cette crise. Et on avait notre entraîneur qui avait l'accréditation, qui était sur l'eau, mais on avait un second entraîneur qui, lui, n'avait pas d'accréditation, parce qu'il n'y avait pas d'accréditation pour tout le monde, mais qui était à terre, qui était en stand-by, et en fait, qui était là juste pour que je puisse aller parler le soir dans ces moments difficiles qu'il y aurait pu ne pas avoir. Mais on se doutait qu'il y aurait certainement des moments compliqués. Donc, cette personne ressource, voilà, le soir, je suis allé vider mon sac, et on a pu faire tout un travail, entre guillemets, de psychologie pour essayer de me remettre moins dans le mode performance, et surtout, via mon intermédiaire, de remettre Nicolas dans, voilà, on repasse en objectif ultime la médaille, rien n'est perdu. Voilà. Donc ça, pour moi, ça a été une première crise très importante, et on l'a passé grâce à la préparation qu'on avait mis en place pour cette crise. Ensuite,
vous aviez carrément anticipé le fait que va forcément y avoir des moments durs. On sait comment on fonctionne les uns les autres dans ces moments-là, et on a des personnes ressources à disposition pour pas que ces moments-là soient fatales.
Oui, c'est clair. Alors c'est impossible de tout anticiper, mais on essaie d'anticiper au maximum grâce à l'expérience et aux années d'entraînement. et on met tout en place pour que si une situation se présente, eh ben voilà, on soit armé, on soit équipé pour pouvoir la passer. Et la deuxième situation de crise, qui est là une mini crise, mais voilà, on est le dernier bord de la medal race, dernier bord de spi. On a la ligne d'arrivée à 300 mètres. La medal race, le principe, c'est d'effectuer des manches courtes, mais très près du bord, pour qu'il y ait que ce soit médiatiquement correct, et parce qu'il y avait des spectateurs sur les gradins, sur une digue. Donc nous, on avait du vent de terre proche de la, avec une manche proche de la côte, c'est-à-dire qu'on a des vents très shifty, hein, qui tournent un peu dans tous les sens, avec des risées qui tombent à droite à gauche. Donc ça, il y a une partie aléatoire très importante. Et dernier bord de portant, je suis sous spi, l'équipier sous spi, bah, il a pas grand-chose à faire, ce n'est que de faire bien son boulot et de régler la voile et régler l'assiette du mieux qu'il peut. Et là, on est troisième à la medal race, et il y a les Hollandais qui sont juste derrière nous au classement, mais à un point, qui étaient cinquième, et qui reviennent avec une pression de l'autre côté du plan. Et là, Nico, il me dit, Gali, c'est maintenant que tout se joue. Soit on est médaillé, soit on l'est pas. Dis-moi ce qu'on fait. Et tu vois, et ça, c'est une situation qui est complètement contradictoire, parce que au portant, c'est lui qui fait la stratégie, c'est lui qui regarde, qui a les yeux pour regarder. Et dans cette situation de stress intense, qui est pas vraiment une crise, mais moi je l'ai vécu un peu comme ça, Nicolas a eu une situation qui était anormale. Et j'ai dit, Nico, moi je me retourne un quart de seconde, et je vois les Hollandais qui arrivent au taquet avec une pression revenir sur nous. Je lui dis, écoute Nico, on fait ce qu'on sait faire, je règle le speed, tu fais la stratégie, je te fais confiance, vas-y, on va à fond dans ta décision, mais c'est toi qui décides, on change pas les rôles. Voilà, on sait ce qu'on sait faire, on garde notre fonctionnement habituel. Et c'est ce qu'on a fait. Et bien sûr, on passe la ligne d'arrivée et on a la médaille de bronze devant les Hollandais.
Ouais, génial. C'est un moment incroyable. C'est un moment où il y a un besoin d'évacuer la pression et en même temps de consolider la confiance entre vous. Et il y a un petit dialogue. Vous prenez quand même le temps d'avoir ce petit dialogue là. Pour finalement retrouver de la confiance pour Nico et finalement pas vous éloigner de vos bases, quoi.
Exactement, mais c'est lui, hein, qui prend le temps de me dire ça. Moi, j'étais concentré sur mon spi, je voyais pas ce qui se passait, donc forcément j'étais certainement beaucoup moins stressé que lui. Mais voilà, lui, il me dit qu'est-ce qu'on fait, alors que ça lui arrivait jamais. Mais si tu veux, c'est cette pression supplémentaire, il avait besoin tout simplement d'être rassuré et que je lui accorde ma confiance. Voilà, si voilà, vas-y à fond, on est médaillé, tant mieux, on n'est pas médaillé, je t'en voudrais pas, parce que t'auras fait le maximum. Et voilà. Donc cette situation, je l'ai jamais revécue après dans le sport de haut niveau, parce que c'est ma dernière manche en tant que sportif de haut niveau, mais elle m'a énormément marqué.
Ouais, génial. L'anecdote est top. En plus sur la medal race des JO. Merci pour ce partage et qui nous rappelle s'il était besoin que la confiance est au centre de la performance et que c'est justement le sujet sur lequel il faut travailler pour décrocher des médailles. Donc merci pour ce partage. ça me permet d'enchaîner sur un sujet qui là aussi encore une fois est connexe, qui est justement cette concentration. Est-ce que vous aviez des routines, toi à titre individuel ou peut-être en tant que couple, en tant que binôme sur l'eau, pour être concentré tout au long d'un championnat, tout au long d'une journée, tout au long d'une journée sur l'eau et tout au long, enfin, de la partie sur l'eau de la journée et tout au long d'une manche qui, voilà, comme tu le disais, peut durer entre 50 et 10-15 minutes pour les medal race.
Bah, sur la concentration, oui, c'est hyper important. Et encore une fois, on apprend ça dans notre sport très tôt. On fait un sport extérieur, on joue avec les éléments, essentiellement le vent, les vagues, qui sont pas toujours au rendez-vous. La première étape, entre guillemets, d'un bon voileux, c'est rester concentré quand on attend le vent ou quand on attend que le vent baisse tout au long de la journée, parce qu'on est capable d'attendre plusieurs heures sur un parking avant d'aller sur l'eau. Et ça, très tôt, ça nous arrive, et les athlètes qui sont performants sont les athlètes qui arrivent à rester concentrés pendant plusieurs heures sur un parking, et au moment où ils vont sur l'eau, se remettre de suite dans le match et repasser en mode compétition. Voilà, donc ça, on a eu beaucoup d'entraînement. Encore une fois, on était très différents sur la méthode de concentration, Nicolas et moi. Nicolas, je l'ai déjà dit, mais c'est quelqu'un de très très doué, enfin, il est quelqu'un de très doué. Moi, beaucoup moins. Par contre, un peu plus scolaire, et j'applique des méthodes, scolaires, qui sont de préparation mentale, pour essayer de me remettre dans la performance. Et après, ça passe par des automatismes, des routines, bien sûr qu'on a. Alors, on n'a pas été les plus routiniers, hein. En équipe de France avec nous, il y avait d'autres équipages, que ce soit des équipages masculins ou féminins, qui avaient des routines vraiment poussées à l'extrême, qui étaient des routines chronométrées, je me lève du pied gauche, Nous, on n'était pas comme ça. Par contre, on avait des routines sur l'eau, on part, on fait 10 virements de bord, 10 empannages, on va voir la ligne, des routines qu'on a tous en tant que régatier. C'était beaucoup moins important pour Nicolas, par contre c'était très important pour moi, pour essayer de rentrer de suite dans le match. Et Nico le faisait, entre guillemets, par nécessité pour que je puisse me sentir complètement à l'aise et avoir des performances au top.
Mais du coup, toi t'avais par exemple dans les périodes d'attente sur le parking, t'étais plutôt à potasser la météo, les stratégies, etc. et Nico à se mettre des écouteurs sur les oreilles ou à regarder une série, c'est ça, si je caricature?
Ouais, alors en fait, moi, très très cartésien, effectivement, je faisais un briefing très tôt avec les entraîneurs, avec le météorologue, et c'est moi, si tu veux, qui prenais un peu cette partie-là. Nico, lui, fonctionne beaucoup plus au feeling et a tendance même à pas à dénigrer, mais en tout cas, il prend souvent les infos et les recommandations des météorologues. Il met souvent de côté, alors que moi, c'est hyper important. Je dis pas que ça, je m'en sers en permanence, mais pour moi, c'est important d'avoir l'information. Moi, j'avais besoin de rester concentré. Alors, je suis quelqu'un de très sociable et j'aime bien discuter avec d'autres personnes, pas forcément de la compétition, hein, discuter de tout et de rien. Par contre, j'ai besoin de me concentrer. Donc, à l'époque, il n'y avait pas vraiment encore Netflix, donc c'était plus un bon bouquin et de la musique, et essayer de m'isoler. Alors, pas de rester isolé des heures, mais j'aimais bien alterner entre aller rester un peu avec les copains, les entraîneurs, les autres coureurs, et quand je sentais que ça allait partir, aller m'isoler 15-20 minutes, me préparer, me concentrer, lire un petit peu et m'habiller. Voilà, c'était hyper important pour moi de faire ça. Nico lui restait beaucoup plus isolé. Lui restait isolé, ça le dérangeait pas de passer quelques heures dans le camion ou dans sa chambre.
Et une fois sur l'eau, alors j'imagine que pendant une manche, bon bah là vous êtes complètement dans le moment présent, il y a pas de voilà, c'est de la concentration extrême tout au long de la manche. Tu me contrediras si c'est pas le cas. Et entre les manches, est-ce que vous avez le temps d'avoir un petit décrochage de concentration avant de repréparer la suite? Est-ce qu'il y avait des petites routines de respiration ou des choses qui vous permettaient de vous reconcentrer à la fin d'une manche et avant la préparation de la suivante?
Alors en fait, encore une fois, on était très différents et c'est difficile d'établir une routine qui nous permette de nous reconcentrer. En fait, ça dépend énormément de l'état d'esprit dans lequel on est. Si tu pars sur une seconde manche que tu as gagné la première, t'es pas dans le même état d'esprit que s'il y a les conditions que t'aimes pas ou dans lesquelles t'es pas performant et tu viens de faire 20e. Et ça, cet état d'esprit, on a essayé d'y travailler et de, entre guillemets, faire un reset et partir comme si on arrivait sur une journée toute neuve. Et c'est très compliqué pour nous. La routine, c'était voilà, on finit une manche, on va voir notre entraîneur, on essaie de débriefer ensemble avec l'entraîneur. On fait des débriefs très courts. Hein, je veux dire, quand on a encore besoin de performance, on ressasse pas le passé sans cesse. En quelques secondes, on dit ce qui a pas été, mais par contre, on cherche des solutions. Ça c'est hyper important, on s'hydrate et après on repart sur des répétitions de virements, d'empannage, des speed tests. On repart, c'est vraiment en faisant des speed tests et en réglant le bateau qu'on arrive à se remettre dedans, c'est-à-dire en se remettant dans la position de course.
Dans l'action.
Exactement.
Ouais.
Mais après, si tu veux, sur cette concentration, tout est fait et encore une fois, c'est la perplexité du fonctionnement en double. Moi, je te donne une idée pendant les Jeux. Je sais pas si tu le sais, mais ma femme était enceinte. Un mois avant les Jeux, on sait qu'elle était enceinte. Je l'ai pas dit à Nicolas qu'elle était enceinte. Je l'ai pas dit à mes entraîneurs parce que on est un couple. Avec Nicolas et il faut que rien vienne perturber ce fonctionnement. Moi, j'avais mes parents, ma famille, ma femme qui voulaient venir à Pékin pendant les Jeux. Je leur ai dit non, venez pas. D'une, vous verrez rien parce que aller sur l'eau c'est interdit. Vous serez mieux en train de regarder France Télévisions en France. Mais surtout, vous allez perturber l'équipage qu'on forme avec Nicolas. On est dans une routine et une concentration. Il faut qu'il n'y ait pas d'éléments perturbateurs. C'est l'objectif de notre vie. Mmh. C'est l'objectif. Ça fait 4 ans qu'on se lève tous les matins pour une médaille aux Jeux Olympiques. Il ne faut pas qu'il y ait d'éléments perturbateurs, même si j'aime ma femme, j'adore ma famille. Je ne voulais pas qu'ils viennent perturber ce fonctionnement double. Pareil pour la grossesse. J'ai pas dit à Nicolas que Émilie était enceinte parce que j'avais peur que ça le perturbe. C'est un peu, peut-être un peu bête, mais voilà. Par contre, on a passé la ligne d'arrivée, il m'a sauté dans les bras, c'est la première chose que je lui ai dit. Mais tout ça pour essayer de garder cette concentration et de tout mettre en œuvre pour être dans les bonnes conditions mentales le jour de l'objectif ultime.
Ouais, génial. Non, c'est hyper intéressant de voir comment vous avez construit ça en étant vachement dans l'adaptation du fonctionnement de l'un et de l'autre, quoi. Et pas du tout en s'imposant quelque chose qui serait une mauvaise moyenne de vos deux fonctionnements, quoi.
Exactement. Ça, je pense que ça c'est déjà arrivé dans des équipages hein, qui ont certainement, même il y en a, c'est sûr, qui ont performé. C'est déjà arrivé dans des équipages avec Nicolas qui a eu d'autres équipiers avant. Moi, c'était, si tu veux, une de mes conditions et c'était mon caractère. Je connaissais très bien Nicolas et voilà, je savais que la force de notre équipage était dans la connaissance de nos caractères et dans l'adaptation qu'on allait avoir de ces deux caractères très différents mais complémentaires. Et comment faire pour que cette complémentarité puisse être au bénéfice de la performance et pas l'inverse.
Dernier sujet qu'on a finalement un petit peu abordé entre les lignes tout au long du podcast, mais c'est la motivation. Qu'est-ce qui, toi justement, t'a fait faire voilà tous ces sacrifices, toutes ces centaines d'heures d'entraînement, ces centaines de jours par an loin de ta femme et de tes enfants. Enfin, t'avais pas encore d'enfants à l'époque, mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce qui t'a drivé et qu'est-ce qui a fait aussi, moi je suis toujours assez curieux de ces sportifs dont tu fais partie qui un peu arrêtent à leur apogée alors qu'ils sont encore jeunes entre guillemets pour basculer dans une autre vie. Alors toi, ta vie professionnelle de docteur en biologie mais voilà, tout ça, la question de la motivation là aussi elle est intéressante à questionner. Et comment tu le vois toi avec le recul?
Ben, je pense que la première question qu'il faut se poser, voilà, c'est qu'est-ce que je veux être et qu'est-ce que j'ai envie d'être dans 5 ans, dans 10 ans. Moi, ce qui est clair, c'est que la voile était mon sport, ma passion, ça l'est toujours, et que l'objectif, c'était les Jeux Olympiques et la médaille. Et ça, c'est source de motivation. Et je te dis, voilà, pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, tous les matins, tu te lèves pour ça. Moi, j'ai toujours été quelqu'un d'objectif et je savais que la voile, ce serait pas mon sport. Comme je te l'ai dit, je m'estime pas doué. Et je savais que pour vivre de ce sport, du moins à l'époque, vivre bien de ce sport, c'était compliqué. Et voilà, et la tête sur les épaules, je m'étais dit, et je commence par la fin de ta question, j'ai arrêté parce que je savais qu'après, ben, j'avais un métier qui me passionnait et qui me permettrait de bien vivre et de mieux vivre que si je continuais la voile et le sport de haut niveau. Mais surtout, j'avais une femme et je voulais, voilà, mon objectif après le sport, c'était fonder une famille et être présent auprès de ma femme et mes enfants pour poursuivre ma vie. Et c'est ça qui m'a fait dire rapidement, ben moi, c'est ces Jeux Olympiques-là, après ces Jeux, après la medal race, j'arrête. Je passe à autre chose, j'ai mes études. Et c'est hyper important, je pense, dans la reconversion des sportifs, ce qui n'est pas vraiment le sujet, mais on voit beaucoup de sportifs qui arrivent à leur apogée, à leur objectif ultime, et ils n'ont rien après. Et là, il y a une lourde descente qui est complexe, qui est, voilà, qu'est-ce que je fais après mon objectif, qu'il soit atteint ou pas. Et la reconversion du sportif a été très compliquée et je suis un peu intervenu là-dessus parce que j'avais préparé ça. Voilà, moi j'ai arrêté pour ça et parce que faut savoir que le sport de haut niveau, c'est très chronophage, c'est énormément de sacrifices et j'estimais que je pouvais pas faire de sacrifices supplémentaires. Quand j'ai eu voilà à la fin des Jeux, j'avais fait 6 ans de préparation olympique et tous les sacrifices que ça implique, je voulais plus les faire, je voulais passer à autre chose, donc j'ai arrêté. Et avant ça, avant, je veux dire, l'objectif c'est les Jeux Olympiques, donc la motivation elle coule de source, surtout voilà quand.
Mais t'as toujours rêvé d'avoir une médaille olympique quand t'étais tout gamin en optimiste.
Ouais, Je me souviens que il y avait la Coupe internationale de printemps qui était dans mon club à Sainte-Maxime, elle avait lieu en Méditerranée. Et quand j'étais en optimiste, hein, il y avait un équipage, c'est Robert Monner qui avait fait la préparation pour les Jeux de Barcelone en 92, et c'était l'équipage du club. J'étais là et je le suivais sur la régate, j'étais sur l'eau, et voilà. Ça n'a jamais été aussi clair de me dire, ben voilà, je vais être médaille olympique. Mais en tout cas, ma carrière en voile, c'était les Jeux olympiques et la médaille. Et ben, tu me connais, en général, quand je veux quelque chose, je dis pas que j'y arrive, mais en tout cas, je fais tout et je mets tout en œuvre pour me mettre dans les conditions dans lesquelles je vais y arriver. Donc voilà, après mon parcours, j'ai beaucoup travaillé et puis j'ai eu de la chance. Je veux dire, j'étais au bon moment, au bon endroit. Ça s'est bien goupillé avec mes études. Ça s'est bien goupillé avec Nico, parce que Nico était sur la Coupe de l'Amérique avec Cachalange. Voilà, on a eu les étoiles se sont alignées, que ce soit au niveau des plannings de Nicolas, des miens et de nos possibilités. Mais une fois qu'on est parti, on a dit bon ben ok, on part pour cette préparation olympique là. La motivation, elle coulait de source, parce que ben voilà, on est jeune, on fait du bateau, on a une chance d'aller peut-être aux Jeux Olympiques et d'avoir une médaille. Donc tous les matins, on se lève et on fait ça. Et je dis pas que c'était naturel, mais voilà, quand tu te lèves le matin et que tu dois aller à la salle de sport pour pousser de la fonte. Il faut de la motivation, on l'a, mais parfois ça suffit pas. Donc encore une fois, on s'est entouré des bonnes personnes. Voilà, on avait un préparateur physique qui était là pour venir à la salle avec nous quand parfois c'était un peu dur de se motiver, d'aller pousser de la fonte. Donc il était là pour nous dire allez les gars.
Et du coup j'ai deux questions. C'est peut-être je vais commencer par la première. Quand tu fais le grand saut de voilà, ça y est, j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai la médaille, ma carrière sportive est terminée, j'ai atteint mon rêve de gosse qui est d'avoir une médaille au JO. Derrière, comme tu dis, toi tu avais préparé ta suite, tu étais déjà diplômé, tu avais une vie de famille en construction, et du coup, t'as pas du tout de ce médaille blues, enfin en tout cas voilà que beaucoup de sportifs décrivent, ou quand même tu l'as parce que bah tu passes d'une vie où t'es sous le feu des projecteurs, même si voilà on n'est pas dans le football ou dans l'automobile, mais quand même tu t'es aux quatre coins du monde, dans des endroits super sympas, tu navigues tous les jours, et puis bah là tu reviens à la réalité quoi, et t'as pas eu de voilà de moments difficiles après ça.
Alors, ce serait mentir de dire que j'ai pas eu de moment difficile, mais encore une fois, j'avais préparé. Tu sors, tu rentres de surlot ta medal race. T'as pas le temps pendant 3 mois. Tu touches pas terre. Tu vas direct au contrôle antidopage. Ensuite, on te met les caméras sur toi. Tu prends l'avion, tu vas à Pékin, tu fais des plateaux télé. T'es dans des hôtels. Tu rentres en France, tu vas à l'Élysée. Ensuite, on t'invite aux étoiles du sport, à la semaine olympique. Pendant 3 mois, tu te reposes pas et tu fais que profiter, surtout que pendant les 4 années avant, tu t'es privé. Surtout nous, à Pékin, il y avait très peu de vent, donc on mangeait rien. Donc c'était vraiment typé pour perdre du poids. Et puis tu fais plus de ski parce que t'as peur de te péter un genou. Tu fais plus de kite parce que c'est dangereux. Donc tu t'es privé de plaisir que tu peux retrouver enfin. Donc pendant 3 mois, voilà. Après, moi, ma femme était enceinte, fallait que je reprenne mes études. J'ai repris à la Timone chez le professeur Raoult en microbio. Je suis arrivé en tant que médaillé. Le plus dur, tu vois, ça a été de me rhabiller, de mettre un pantalon et des chaussettes, quoi. Voilà. Mais après, moi, la vie continuait et je savais quels allaient être les objectifs futurs. Pour Nicolas, ça a été très différent. Mais ça, tu pourras en parler avec lui.
Je vais l'inviter sur le podcast, ouais.
Mais pour Nicolas, ça a été très différent parce que bah, lui, ça a tout le temps été la voile professionnelle et que ça. Et métier aujourd'hui le réussit très bien, mais voilà, il savait qu'il voulait en vivre de son métier. Moi, c'était pas une surprise, hein. Je l'avais dit un an avant que j'arrêtais. Il m'a poussé pour qu'on continue. J'ai hésité. Aujourd'hui, je regrette pas du tout de pas avoir repris parce que clairement, je pense qu'on se serait disputé. C'est-à-dire, c'est tellement fort au niveau émotionnel et au niveau, on avait tellement des caractères un peu différents. Il y a tellement de pression. que je pense que ça aurait explosé. Donc voilà, en tout cas Nicolas a passé une période de plusieurs mois où il a dû se poser beaucoup de questions sur son avenir à court, moyen et long terme.
Ouais, j'entends. Et la dernière question, ça sera d'ailleurs la question de fin. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive ?
Alors aujourd'hui, ce qui me motive, c'est les projets, les objectifs. Moi, je suis vraiment quelqu'un d'objectif. Il faut qu'on me donne un objectif, alors qu'il me fasse plaisir. Hein, encore une fois, je veux plus m'investir et faire des sacrifices pour quelque chose qui me plaît pas. J'ai 41 ans, j'ai une vie très bien à tout point de vue. J'ai la santé, donc je veux plus me prendre la tête pour des choses qui me vont pas. Mais voilà, j'ai des objectifs. L'aspect humain me plaît beaucoup. Voilà, je veux dire, il faut pas oublier, même si je travaille beaucoup avec des robots, avec des logiciels, intelligence artificielle et tout ça, l'aspect humain est hyper important. Et la gestion de projets, des objectifs qu'on me met, et la préparation de tous les objectifs pour y arriver, quoi. Tout le voyage qu'on fait depuis, on décide de faire ce projet jusqu'à l'aboutissement du projet, tout ça, ça me motive, mais il faut être avec des personnes que j'aime et surtout essayer d'apprendre au contact de nouvelles personnes et de nouvelles thématiques.
Ouais, donc ce qui te motive, c'est d'apprendre. Pour l'anecdote, quand même, t'as eu quelques projets plutôt perso assez sympas, puisque je crois que t'es parti une année ou peut-être un petit peu moins, mais en croisière familiale. Ça c'était un rêve de gosse que t'as pu cocher dans ta quête, enfin après ta carrière olympique.
Effectivement, en fait, dans toute ma préparation olympique, comme tu l'as dit, on voyage beaucoup. On est dans des hôtels formidables, dans des villes au soleil, au bord de la mer. Et ce qui m'a beaucoup, un des sacrifices importants, c'était de le faire tout seul, sans les êtres que j'aime. Alors bien sûr, il y avait Nicolas, il y avait mes potes de l'équipe de France, mais mes amis et ma femme et ma famille n'était pas là pour partager ces moments. Alors, on avait très peu de jours de repos et on visitait pas, mais néanmoins, on était quand même dans des endroits paradisiaques. Et très tôt, j'ai dit à ma femme, mais bon, c'est beaucoup de sacrifices, mais un jour, on partagera ça ensemble. Et rapidement, voilà, on a eu comme projet de partir en bateau, parce que c'est un peu la seule chose que je sais faire. Pas en tour du monde, mais en tour des Caraïbes, avec les enfants, parce que c'est quelque chose qu'on voulait partager avec les enfants. Donc, on a attendu qu'ils soient suffisamment grands pour pouvoir s'en rappeler, tout simplement. Hein, donc, ils avaient 6 et 8 ans. Et on a fait le tour des Caraïbes. Il faut savoir que ma femme a le mal de mer. Hein, donc, elle m'aime beaucoup pour pouvoir vivre 6 mois en bateau. Et ça a été une expérience formidable pour les enfants, parce que tant au niveau découverte du monde que découverte de l'environnement, réussir à vivre avec très peu d'eau, avec très peu d'énergie sur un bateau, savoir qu'on parle anglais, français, espagnol, qu'il y a des riches, il y a des pauvres dans le monde, ça a été super. Et la gestion de tout ce dont on a parlé, la gestion de crise, la prise de décision, encore une fois, dans cette aventure familiale a été hyper importante parce qu'on a vécu des situations particulières avec ben voilà une suspicion de pirates, avec des tempêtes qui arrivent, voilà, avec des maladies. Et ça, en tant que, si tu veux, capitaine du bateau, hein, chef de bord, comme je suis aujourd'hui dans l'entreprise, comme je l'ai été dans le sport de haut niveau, tous ces éléments qui pour lesquels je m'étais entraîné dans le sport de haut niveau, ça m'a servi voilà dans ce voyage. Pourtant, c'est entre guillemets un simple voyage en famille sur un bateau.
Ouais, super, c'est super intéressant. En tout cas, moi, c'est un truc que j'ai toujours rêvé de faire, que j'ai pas encore eu l'occasion de faire, mais de cocher cette étape-là, de partir en mer avec ses enfants pour quelques mois ou quelques années. C'est sûr que c'est aussi un truc qui fait rêver. Et ben, je crois qu'on va rester sur ce sujet-là, de cette envie de voyager et de prendre le temps, loin de la médaille olympique et de la performance. Mais en tout cas, merci pour le partage, pour toutes ces anecdotes et aussi ce partage d'expérience qui est hyper précieux et qu'on peut vraiment transposer facilement dans nos quotidiens, soit d'entrepreneurs, soit de sportifs. Et voilà, je suis ravi de t'avoir eu sur le podcast de Marseille dans la tête d'un leader. Et puis on se retrouve très bientôt, hein. Souvent tu interviens avec nous en tant que skipper Marseille ou en tant qu'intervenant sur certaines de nos conférences, donc nul doute qu'on se retrouvera pour des aventures communes en 2023.
Écoute Chris, merci à toi et merci à toute l'équipe.
Vous venez d'écouter Dans la tête d'un leader,
le podcast de Marseille qui croise le management des navigateurs et des entrepreneurs.
Nous vous donnons rendez-vous très vite pour un nouvel épisode, de nouveau avec un marin ou un dirigeant inspirant.
En attendant, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux.
Et rendez-nous visite sur marseille.com ou sur notre page LinkedIn. À très vite !